dans le cadre des Assises de la biodiversité, qui se tenaient pour la 13e édition à Marseille, Opéra Mundi a organisé une conférence naviguée avec le bioacousticien Frédéric Bertucci sur la communication des poissons.
Et donc ces sons-là, ça fait très longtemps qu'on les connaît, et les pêcheurs s'en servent pour détecter les bancs de poissons. Donc soit le pêcheur mettait l'oreille sur le fond du bateau, ou alors il collait sa rame sur le fond du bateau, mettait le bout de la rame à l'oreille, et ça faisait un lien direct, et il captait les vibrations via la rame directement dans son oreille.
Et alors je suis Stéphane Vétéré, capitaine pour la société et compagnie maritime Icar, Icar Maritime.
Et là, où est-ce qu'on se trouve actuellement ?
Alors dans la rade de Marseille, on sort de l'avant-port de Marseille et on se dirige vers Tiboulen de Frioul, qui va être abrité du sud-est.
Là, on est dans la cabine du capitaine, dans votre cabine. Est-ce que vous pouvez me la présenter très rapidement ?
Quand on présente une passerelle, il y a une barre à roues, il y a une barre électrique. Il y a un siège sur lequel je suis assis et après il y a plein de boutons et j'ai un radar, j'ai des caméras et on a tous les instruments pour pouvoir naviguer en toute sécurité et avec le plus d'informations possible.
Et la météo est bonne aujourd'hui ?
La météo est bonne dans la rade, mais elle ne va pas être bonne dans l'après-midi pour les calanques. Du coup ce matin on est bien, on a plutôt de la chance.
L'Hélios est un bateau hybride, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Là, en ce moment, on fait route vers le Frioul, comme je le disais, et du coup, on est en thermique. C'est moteur diesel, hein, c'est moteur normaux, etc. Et quand on va arriver là-bas, on va passer en électrique. C'est-à-dire qu'on a des moteurs électriques, du coup, on passe du thermique à l'électrique. Ce qui, la grande différence, en fait, c'est pas de consommation de diesel, parce que voilà, on est en électrique, justement, et on n'a plus de vibration et on n'a plus de bruit.
25 en rafale de sud-est.
C'est chaud. Vraiment début d'après-midi.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je suis Éric Giraud, je suis cofondateur et co-directeur avec Cécile Arnold d'une association qui s'appelle Opéra Mundi, qu'on a créée en 2014, qui est une association culturelle qui fait le lien entre les chercheurs, les scientifiques en général et le public. Notre devise, c'est « Le monde change, parlons-en ». Et nous partons des questions écologiques pour revisiter toutes les questions principales de notre époque en invitant des chercheurs de divers organismes, mais aussi des gens du savoir, mais aussi des gens du savoir-faire, des boulangers, des paysans, des plongeurs, des navigateurs.
Et nous sommes où ici aujourd'hui ?
Alors là, nous trouvons sur la face nord du Frioul, près de l'îlot Tiboulen, où on vient de plonger un hydrophone dans l'eau pour essayer d'écouter les crevettes claqueuses. Et ensuite, grâce à Frédéric Bertucci, nous avons eu droit à une super belle conférence sur le monde du son, du bio-son, le chant des poissons.
Qu'est-ce que c'est qu'un hydrophone ?
Un hydrophone, c'est juste un microphone, mais qui va sous l'eau, hydro, dans l'eau.
Et là, nous sommes très heureux de recevoir Frédéric. Et je vous propose d'abord qu'on écoute un son.
Si vous avez bien prêté l'oreille, vous avez entendu une sorte de crépitement, une sorte de bruit de friture sous l'eau. Et ça, c'est typiquement le bruit de fond des environnements marins, soit rocheux, comme ça peut être le cas ici, ou corallien. Et c'est le son qui est produit par l'activité de tout un tas d'organismes marins, et en particulier les crustacés, les invertébrés. Donc c'est les oursins, les petites crevettes, qui sont responsables de ce petit crépitement lorsqu'elles se déplacent sur le sol, lorsqu'elles bougent un petit peu du substrat.
Pourquoi avoir choisi d'organiser cette conférence sur un bateau ?
On essaye toujours de trouver des nouveaux dispositifs pour intéresser le public et pour contextualiser la diffusion du savoir. Le public est de plus en plus les gens sont de plus en plus en recherche de sens. Ils veulent comprendre le monde dans lequel ils sont, un monde qui peut leur paraître inquiétant, et donc ils veulent avoir des outils pour le comprendre, pour le découvrir, pour connaître d'autres espèces, la façon dont les poissons communiquent sous l'eau. On savait que les oiseaux chantaient, et on sait maintenant que les poissons émettent des sons qui peuvent être considérés comme des chants, plutôt du rap d'ailleurs que des chants mélodieux.
Et le corbe, très intéressant, pareil, début de l'été, aux alentours de 22h minuit, si vous plongez la tête sous l'eau, vous risquez d'entendre quelque chose comme ça. La petite mitraillette là. Et si vous faites attention, il y en a qui sont plus ou moins proches du micro. Un loin, un plus proche. Donc en fait là, vous avez plusieurs individus très proches les uns des autres qui vont se signaler au même moment. Et donc ça va permettre aux individus de savoir où commence tel et où finit tel ou tel territoire, savoir qui est présent, combien d'individus sont présents. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un chorus. C'est un moment où plein d'individus vont vocaliser au même moment.
Frédéric Bertucci, qui est un jeune chercheur de l'IRD, qui est à 7, basé à 7, et qui voyage dans le monde entier, eh bien, il a cette capacité, comme certains jeunes peuvent l'avoir, ou certaines personnes, à expliquer de manière très claire et très simple des choses qui sont relativement complexes, ou de dévoiler un savoir professionnel auprès d'un public non professionnel. Et c'est loin d'être ennuyant, c'est plutôt... ça réaventure la vie et ça réaventure l'imaginaire que nous avons sur les fonds sous-marins.
Donc pourquoi est-ce que je vous fais écouter tous ces sons-là? Vous avez vu, aucun son se ressemble, il y a beaucoup de sons différents. Il y en a qui sont des claquements, d'autres des frottements, il y a des roucoulements, tout ça. Et en fait, c'est dû au fait que chez les poissons, contrairement aux mammifères et aux oiseaux, on n'a pas de système anatomique dédié à la production de sons, comme nous, le larynx avec les cordes vocales, ou la syrinx chez les oiseaux. Les poissons, eux, ont détourné des structures anatomiques qui existaient déjà, qui remplissaient d'autres fonctions, mais qui pouvaient produire du son. Donc c'est pour ça qu'au final, au sein des vertébrés, c'est chez les poissons qu'on a la plus grande diversité de mécanismes de production de sons différents.
Je suis Célia Gratadour, je suis en charge de la coordination du programme des Assises nationales de la biodiversité. Elles rayonnent à travers la France, entre guillemets, puisqu'elles sont à chaque fois accueillies par un territoire d'accueil, donc souvent une fédération d'acteurs qui sont représentés souvent par l'agglomération, la ville, la région et le département. À chaque fois, donc, c'est une volonté d'un territoire d'accueillir ces assises qui sont co-organisées donc, par Idéalco et les écomères. Donc, moi, je travaille pour Idéalco. Idéalco, on est une société qui met en lien, qui fédère les agents des collectivités territoriales pour les mettre en lumière, présenter leurs initiatives locales, leurs politiques publiques, montrer comment ils travaillent ensemble, etc.
À qui s'adressent les Assises nationales de la biodiversité ?
Alors les Assises nationales de la biodiversité donc, regroupent de nombreux experts, associations, organismes, collectivités territoriales et pouvoirs publics. Et ils s'adressent à eux qui sont les congressistes, donc, principalement les agents, les techniciens qui sont chargés de mission biodiversité, responsables d'espaces naturels sensibles, chargés d'environnement et de développement durable. Et aussi des élus qui sont présents et avec qui il faut faire le lien, bien évidemment, entre les services et les élus présents. Tout le maillage associatif local est bien sûr aussi très bien représenté. Après, il ne faut pas oublier que c'est des assises nationales et qu'on a autant l'Agence régionale de la biodiversité de Bretagne qui est présente que l'Agence régionale de la biodiversité de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur ces assises.
Voilà. Et ces assises, cette année, en 2023, se déroulent à Marseille.
Oui, alors on est à Marseille pour ces assises cette année, donc 13e édition dans le département 13. Donc c'est une initiative, ces assises, du département des Bouches-du-Rhône, de Martine Vassal et de son vice-président Didier Réau, d'accueillir les assises pour présenter la richesse de leur territoire, leurs initiatives locales. Le département des Bouches-du-Rhône, c'est quand même un espace où il y a quand même énormément d'espèces, 9000 espèces. Ils ont aussi ils travaillent à protéger en acquérant du foncier des espaces naturels sensibles. Donc c'est vraiment une volonté du département, mais c'est aussi un travail collaboratif puisque l'événement a le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est vraiment une collaboration et un moment pour tous les agents de se retrouver, d'échanger, de coordonner des actions ensemble, de valoriser leur expérience, leur initiative, et que quelqu'un de Bretagne discute avec quelqu'un de Marseille et puis puisse se dire « Ah, mais c'est super ce que vous avez mis en place, nous aussi on pourrait travailler là-dessus. »
Et je vous disais, l'avantage, on a des micros qui peuvent enregistrer pendant 3 mois d'affilée, c'est ce qu'on a fait pour le Mérou. On a placé des micros à la pointe de la Révélate en Corse, à l'entrée du golfe de la baie de Calvi. Et on a pu, comme ça, du 26 juin au 26 septembre 2012, ça date, enregistré l'activité acoustique du Mérou et on a pu détecter des pics dans le nombre de sons qu'on détectait par jour. Et les plongeurs ont validé que ces pics de production de sons étaient associés à des événements de ponte chez cette espèce-là.
Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'événement
Il y a sept grandes thématiques qui regroupent plusieurs tables rondes, ateliers, focus, fresques de la biodiversité. Donc, il y avait un programme assez riche, hein, quand même, de 50 ateliers ou tables rondes, en comptant les plénières d'ouverture et de fermeture. Donc, on a commencé mercredi matin avec la plénière d'ouverture, avec un beau sujet sur le droit de l'environnement. Et puis après, c'est enchaîné différentes tables rondes, différents ateliers plus participatifs, l'occasion pour les congressistes d'échanger plein de beaux sujets, les mouillages et la posidonie, renaturer les villes, le concept une seule santé qui est aussi très intéressant aujourd'hui et qui est en train d'être mis en place, c'est le fait de se dire que si la biodiversité s'éteint entre guillemets, et nous aussi en tant qu'humains nous allons être impactés directement, aussi la préservation des sols, l'agriculture, comment inciter les consommateurs à manger plus bio, comment inciter les agriculteurs à replanter des haies sur le bord de leur exploitation pour que les sols, même s'ils ne sont pas bétonnés, des exploitations agricoles soient refaits et à nouveau un sol riche en insectes et en pollinisateurs, etc.
C'est des moments d'assises pour présenter des projets qui sont déjà menés ou qui veulent être encouragés, développés.
Alors c'est un peu les deux, c'est souvent des retours d'expérience sur des projets qui ont été faits, qui ont été aboutis ou qui sont en cours, des initiatives novatrices. Chacun présente ses projets. Ça, c'est travaillé très en amont parce que 8 à 6 mois avant l'événement, on organise des comités techniques, des comités de pilotage avec les acteurs du territoire, valoriser leurs activités, leurs expériences, leurs actualités, voir où est-ce qu'ils en sont. Et puis, on peut avoir un sujet qui a été traité en 2022, qui a progressé d'ici, depuis, et qui sera présenté aussi en 2023.
Et c'est des projets de mieux vivre ou des projets vraiment pour réagir rapidement face à la crise climatique ?
Alors, il y a des projets assez globaux de présentation. Par exemple, quand je parlais du concept One Health, c'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, de montrer que les vétérinaires, les médecins et les maires se fédèrent pour essayer de présenter des actions de sensibilisation concrètes à la population. Mais il y a aussi des actions beaucoup plus terre à terre, entre guillemets, par exemple, le CEREMA qui a travaillé avec la ville de Montreuil et son espace qui s'appelle les Murs à Pêche, pour sensibiliser la population à la biodiversité des sols et donc à créer un vrai atelier de sciences participatives. Il y avait le directeur Michel Malaroni du port de Bonifacio qui présentait la mise en place de bouées autour des ports pour éviter que les gros bateaux de plus de 24 mètres, en jetant l'ancre, n'abîment les herbiers de Posidonie en raclant les fonds marins.
Au contraire, la pollution sonore, c'est comme un robinet d'eau. Il suffit de fermer ou de le réduire pour automatiquement, tout de suite, réduire la pollution. Donc ça passe, entre guillemets, assez facilement quand on pense au contrôle du trafic maritime, à des itinéraires de navigation prédéterminés qui évitent certaines zones sensibles où on aurait des poissons, comme le Mérou, encore une fois, qui est en train de se reproduire, pour réduire la pression acoustique dans ces environnements-là. On peut aussi limiter la vitesse, ça réduit d'autant le bruit ambiant qui est créé par le bateau. Et on peut aussi éviter périodiquement des zones. Et bien sûr, on a les bateaux hybrides qui, du coup, font moins de bruit qu'un bateau thermique. Après, réduire le bruit d'un bateau, entre guillemets, traditionnel thermique, ça passe aussi par un entretien du moteur. Un moteur bien entretenu fera aussi moins de bruit qu'un moteur vieillissant et encrassé. Voilà. Et je finirai sur une citation que j'aime bien, qui peut être un peu déprimante, mais qui, moi, me va bien, qui est de Victor Hugo, qui disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » J'espère que vous, aujourd'hui, vous aurez écouté un petit peu et que ça vous servira peut-être dans le futur. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis là jusqu'à quai. Voilà.